à toutes et à tous, vous êtes bien dans Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative sur Radio Campus Amiens. Aujourd'hui, Thomas Roland est allé à la rencontre de la directrice artistique du Festival International du Film d'Amiens, Marie-France Aubert, ainsi que son programmateur Alexandre Levaret. Ils viennent nous présenter le programme de cette 43e édition du FIFAM.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons évoquer la programmation de la 43e édition du Festival International du Film d'Amiens. Et pour cela, je suis en présence de la directrice artistique Marie-France Aubert et de l'un des programmateurs du festival, Alexandre Levaret. Marie-France et Alexandre, bonjour.
Bonjour.
Que pouvez-vous nous dire sur la programmation de la 43e édition du Festival des films d'Amiens, qui, je crois, vient d'être bouclée, il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, ça y est, la brochure a été envoyée en impression la semaine dernière. Moi, je peux parler du moteur du festival cette année, un moteur qui va très lentement parce qu'il s'agit d'une programmation autour de la vache, qui s'appelle Vache Caméra, et une programmation qui vise à montrer des films de toute époque, de tout genre, et à revaloriser aussi un peu cet animal qui est finalement très présent sur les écrans et dans nos têtes, mais on ne s'en rend pas toujours très compte.
Oui, ensuite, on a une programmation qui s'appelle Les Disparus d'Amérique latine. Donc à l'occasion des 50 ans de la prise de pouvoir de Pinochet, on s'est intéressé au cinéma qui allait traiter des disparus des dictatures. Mais c'est une programmation qu'on a voulu ouvrir aux disparus de la colonisation en Amérique latine, des disparus qui sont déplacés, des disparus actuels aussi. Et donc l'idée, c'était à la fois de croiser des cinéastes qui ont parlé de ça à l'époque, dans les années 70, notamment avec Ignacio Aguero qui sera là, et avec des cinéastes plus récents qui, eux, vont essayer de montrer cette absence à travers le cinéma, à travers l'image, comment on filme le manque, etc.
Alors je reviens un peu sur ces deux sections. Vache caméra, en fait, ça consiste en quoi, vache caméra? Parler de la vache, d'accord, mais comment, sous quel angle, avec quel film?
Alors il y a trois grandes pensées, on va dire, enfin plutôt dynamiques dans cette programmation. En fait, il y a toute une partie de cinéastes qui ont un peu mis la vache en scène comme une sorte d'objet réceptacle, de miroir de l'humain. Et en fait, souvent, la mort de la vache annonce la mort de l'homme, dévoile sa folie, dévoile des sociétés corrompues. Mais elle permet aussi une libération de l'intime chez l'humain. En tout cas, elle permet de dévoiler sa psyché. Et après, il y a plein de cinéastes qui, eux, ont décidé de mettre en scène la vache, mais cette fois en tant que sujet. Et de, là, du coup, il y a vraiment une question de regard. C'est plus nous qui regardons la vache, mais c'est la vache qui nous regardons nous. Et qu'est-ce que ça change en termes de cinéma, en termes de langage, en termes d'esthétique, et qu'est-ce que ça change aussi en termes de gestes politiques et éthiques de mettre cet animal au centre et de filmer à hauteur de vache, de capter, si possible, de tendre en tout cas vers une subjectivité de la vache. Et forcément, voilà, Mais comme disait Godard, la vache, c'est un regard critique aussi qui a sa place dans une revue de cinéma. Donc nous, on s'est dit que c'était un regard qui avait sa place aussi dans un festival.
Et rapidement, on peut s'attendre à voir quel film, quel genre de film autour de cette thématique?
Alors évidemment, on a La Vache et le Prisonnier, qui j'espère ravira les grands et les petits. C'est un film d'enfant, je crois, pour beaucoup de générations. On va avoir aussi un film américain, Dark Waters, de Todd Haynes. On va avoir des documentaires avec Pierre Creton qui viendra présenter Secteur 545, un grand cinéaste, poète et paysan. On a aussi un film de Maud Alpi, Gorge, cœur, ventre, en présence de Jonathan Palombo qui a écrit La nuit animale et justement qui s'est penché sur l'animalité au cinéma. On va avoir aussi le film iranien La vache de Dariush Merjoui qui malheureusement a été assassiné il y a une semaine. C'est une triste nouvelle. Des films un peu de tout pays, de tout continent, de toute époque aussi, des films de patrimoine comme des films récents. On va par exemple avoir un film chilien qui s'appelle La vache qui chantait le futur. Et ça, ce film-là en particulier apporte aussi un souffle et une pensée écoféministe qui est aussi une trame de cette programmation.
Et donc Alexandre Levaret, que pouvez-vous nous dire sur Les Disparus d'Amérique latine?
C'est une programmation qui va s'intéresser à des cinéastes qui sont actuels. Et donc ça amène, à partir du moment où on essaye de filmer ce qui n'existe plus, ça amène des formes assez différentes aussi. Donc là, de la même façon, on a du documentaire, on a des films expérimentaux avec Anavas, par exemple, qui sera là. On a aussi voulu, dans le continent sud-américain, aller chercher des films d'un peu tous les pays. Donc on a des films du Chili, bien sûr, de l'Argentine, du Brésil, du Pérou, du Guatemala, un film de fiction, c'est un cinéma très rare, le cinéma guatémaltèque. On aura des invités aussi. Il y a Laura Gabay qui vient présenter un film qui parle de, à travers l'histoire intime de son père qui a dû fuir l'Uruguay, de son histoire à elle et de toute l'histoire de l'Uruguay. Donc il y a beaucoup de choses à découvrir.
Et donc Marie-France Aubert, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme section cette année ?
Alors, là, comme vous le voyez avec ces deux grandes sections, il y a aussi la question de la marge et de l'invisibilité qui traverse un peu cette programmation. Et dans cette dynamique-là, enfin dans ce cheminement-là, on a une programmation qui s'appelle Gay Rom-Com. Et en fait, il y a deux choses qui se croisent dans cette programmation. La question du genre de la comédie romantique, qui est en fait un genre, je pense, que beaucoup d'entre nous apprécions, voilà, beaucoup d'entre nous sortent les mouchoirs devant ces films. Et en même temps, qui est assez aussi... dévalorisé et snobé, on va dire, par une certaine cinéphilie. Et on voulait un peu lui donner une place dans notre festival pour aussi apporter un peu de légèreté, de papillon dans le festival. Mais c'est aussi la question des comédies romantiques avec mettant en scène des personnages gays. Et ça, c'est encore des films qui sont encore plus invisibilisés. Et en fait, on a quatre films des États-Unis et du Royaume-Uni des années 90 et début 2000 qu'on va montrer. Et en fait, c'est des films qui sont très rares, pourtant avec des acteurs et des castings assez incroyables, des films très puissants qui jouent avec le genre et qui sont vraiment à la hauteur de films comme Bridget Jones ou Quatre mariages et un enterrement. Enfin, c'est tout à fait le même genre d'esprit. Et en même temps, qui vont aborder des questions politiques importantes comme les questions d'immigration, la question du coming out, du sida. Et voilà, et ça va être quatre propositions qui sont donc très peu montrées sur les écrans, qui ont été très peu montrées sur les écrans français. Donc nous, on est assez fiers aussi de mettre ces films en valeur et de les sortir un peu des limbes, etc. Et après, voilà, c'est aussi une programmation qui est intéressante en termes de travail de festival, parce que les ayants droit sont pour la plupart inexistants, n'existent plus. Et donc on a décidé de montrer aussi des films sans avoir l'autorisation des ayants droit, parce qu'on ne les a pas trouvés, mais que c'est aussi la manière de sortir ces films de cette invisibilisation. Et on a décidé, voilà, que c'était un acte aussi un peu de festival aussi et de programmation différente.
Et donc ce sont des films qui ne touchent que l'homosexualité masculine.
Du coup, ça parle de beaucoup de choses. Ça parle aussi de parfois dans certains films comme Touch of Pink de la place des femmes. Enfin, ça parle de plein de thèmes différents. Mais c'est une question de mettre en scène des histoires d'amour gay. Et en fait, c'est justement, il y a beaucoup de personnes dans le public qui se sentent peut-être pas concernées. Mais en fait, c'est des films qui peuvent toucher tout le monde parce qu'il y a aussi une manière de parler d'amour, de parler de société qui est assez universelle. Et voilà. Et je pense qu'on va tous rire et pleurer, j'espère, devant ces films de la même manière.
Parce que moi, je me posais la question, gay rom-com, je pense en premier lieu à l'homosexualité masculine. Et donc, pourquoi alors, je me demandais s'il y avait aussi des films lesbiens. Après tout, pourquoi pas ne pas montrer les deux aussi ?
Ah oui, bien sûr, mais de toute manière, il y a des films lesbiens un peu partout dans toute la prog cette année de toutes les sections. Nous, après, on n'est pas dans une volonté de faire des sections LGBT+, parce que pour moi, c'est une manière encore de marginaliser et de pas les inclure aussi comme œuvre de cinéma. Mais là, en fait, ce qui nous intéresse, c'est pas de montrer des films gays, mais c'est de réfléchir à la comédie romantique et à la comédie romantique gay et à son invisibilisation. Après, c'est juste que là, on a décidé de se pencher sur les gays en particulier et ces histoires-là, parce que c'est des films qui existent, c'est une vraie filmographie. Ça était une programmation plus proposée par Geoffrey Spénaud, qui est cinéaste, programmateur et critique, et en fait qui aussi propose des films qui ont été constitutifs de sa cinéphilie mais qui ont été aussi invisibles. Donc on a décidé de prendre ce parti-là, mais voilà, enfin c'est pas du tout une exclusion des lesbiennes, c'est juste on a une section de quatre films, mais on voulait vraiment creuser et pas justement faire un fourre-tout un peu LGBT, enfin voilà, c'est... Mais après, voilà, encore une fois, les films queer traversent toutes les sections.
Qué alegría más grande, ¿eh? Tenerlos aquí después de tanto tiempo juntos de nuevo.
Necesitamos irnos.
Tu mamá volvió.
¿De qué estás hablando?
Mamá está muerta. Se murió hace mucho tiempo.
¿Sistema nervioso?
Sí, puede ser, pero yo creo que algo más.
Hay un zumbido. Siente un zumbido.
Tu mamá nunca me va a perdonar.
cosa escrita.
Nuestro fin pronto llega.
¿Qué se siente morir?
La muerte se...
¿Por qué están protestando?
Que aparecieron muchos peces muertos.
Nuestro fin pronto llega.
Siempre pensé en este momento.
Sin mí.
Había soñado con esto, que venías a buscarme.
Yo he muerto.
Siempre van a haber cosas que no podemos explicar.
Más fuerte que viva.
Y a des cinéastes qu'on connaît parmi ces quatre films ou pas?
Non, pas vraiment, mais peut-être des acteurs. Alex, aide-moi, j'ai un trou de mémoire de nom.
Il y a un
nom,
film avec Patrick Stewart, par exemple. Il y a aussi, alors j'ai plus son nom, l'acteur de Twin Peaks. Ouais.
Kyle MacLachlan.
Je l'ai plus, mais
celui qui fait le détective.
Oui, c'est ça.
Kyle MacLachlan. Ouais,
et il y a Sigourney Weaver aussi qui joue une gourou.
Il y a beaucoup de second rôles qu'on a vus partout dans le cinéma, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de retrouver ces films-là, parce que c'est des films qui sont pas sortis en France, comme tu le disais, Marie-France. Mais qui aurait pu tout à fait, parce qu'il y a un casting 5 étoiles qui est... Bon voilà, ces films ont un peu disparu, mais de toute façon, c'est des films drôles aussi, c'est des comédies avant tout.
Ils gagnent à être redécouverts et remis en valeur.
Oui, alors donc on est très content d'accueillir Davy Chou pendant 4 jours au festival. Donc Davy Chou, c'est un cinéaste franco-cambodgien. Son dernier film, c'est Retour à Séoul, qui est sorti l'année dernière, qui était présenté à un certain regard à Cannes. Et donc on est content de l'accueillir en tant que cinéaste, il a fait 3 longs métrages, dont un documentaire, et aussi en tant que producteur, parce qu'il a la double casquette de producteur depuis longtemps. En France, il avait monté une boîte de production qui s'appelait Vicky Film, mais là ce qui nous intéresse, à travers le regard qu'on a sur son métier de producteur, c'est ce qu'il a fait au Cambodge. Donc avec plusieurs cinéastes, il a monté une société de production qui s'appelle Anti-Archive. Et donc le but de ce collectif de producteurs, c'est qu'ils fonctionnent vraiment en collectif, c'est-à-dire qu'ils vont travailler sur les films de l'un, de l'autre, à tous les rôles possibles, en acteur des fois, en montage, etc. Et donc ce qui nous intéressait, c'est de voir comment marchait le travail de producteur au Cambodge et quels films ils souhaitaient mettre en avant cette société-là. Et donc c'est un nouveau cinéma cambodgien. Donc c'est que des cinéastes très récents, la plupart ont fait 1 ou 2 courts-métrages, on aura une programmation de courts-métrages Anti-Archive, et aussi des films qui sont sortis en France il y a un peu de temps. Il y a White Building par exemple de Kavish Niang, qui avait une jolie petite sortie, même si il avait été bien reçu comme film. Et voilà, donc on est très content de l'accueillir, ça nous permet aussi de mettre en avant un métier qui n'est pas forcément tout le temps mis en avant dans les festivals, celui de producteur, et de surtout s'intéresser comment un cinéaste peut allier ses 2 casquettes, donc avec les obligations d'un producteur aussi, avec tout, il y a peut-être même des clichés autour de comment marche un producteur, et comment lui aussi il arrive encore à faire des films avec ça. Donc voilà, ça va être chouette, je pense, et surtout Davy Chou sera là assez longtemps, on pourra discuter, il y aura plusieurs débats avec lui, et il participera à une table ronde aussi autour des cinéastes producteurs, productrices, donc voilà, ça va être super, je pense.
Oui, et puis ça permet aussi de mettre en évidence le travail de producteur, qui est quand même un métier entouré de clichés, et dont le rôle est beaucoup plus important qu'on ne le pense dans la création d'un film. Et donc, il y a aussi une section jeune public.
Alors, les enfants ont aussi le droit à leur vache avec le film documentaire Bovine, qui était d'ailleurs dans les sections d'école primaire, et qui a beaucoup plu aux enfants et qui a beaucoup fonctionné. Donc, on s'est dit, c'est aussi, les enfants ont aussi leur documentaire. Et on a Co d'un autre côté aussi, deux films qui se répondent. On a Ma vache et moi de Buster Keaton. Et on a en avant-première un film qui s'appelle Krisha et le maître de la forêt. C'est un film coréen, mais qui se passe en Sibérie et qui essaye de, qui tend à mettre en valeur la vie nomade. Et en fait, c'est une petite fille qui est héroïne de ce film. C'est dans un film en stop motion, mais vraiment d'une animation sublime. Et en fait, qui va partir à la recherche du maître de la forêt, donc l'esprit des lieux, pour garder sa mère en vie, mais ses terres aussi. Et voilà, c'est un film d'aventure très beau, qui, je pense, va comment dire, garder les enfants au souffle coupé et en même temps les émouvoir. Enfin, j'espère. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'a fait.
Il y a aussi une section coup de cœur et avant-première.
On a beaucoup de choses dans la section coup de cœur. Donc, il y a beaucoup d'avant-premières. Il y a beaucoup... Je vais te laisser vite en parler, mais on a, je pense, une quinzaine de séances. En fait, on avait cette idée encore cette année de... D'un côté, faire participer des partenaires à nous, c'est-à-dire qu'il y ait des séances qui se passent dans d'autres salles que celles habituelles du festival, c'est-à-dire qu'on aura une séance qui sera au musée de Picardie, donc avec le film Bonheur de Nicolas Boone, qui a été professeur à Amiens, avec une séance qui permettra d'échanger autour de son film et d'ensuite de faire un parcours de découverte dans le musée.
Oui, on a aussi, parce qu'on parlait du jeune public, mais aussi, comme disait Alexandre, on a des partenariats parce qu'on vise aussi à croiser des disciplines et par le regard d'autres artistes et d'autres champs comme ça artistiques, de déguiser un peu les regards sur les films. Et en même temps, parce qu'il y a une ébullition à Amiens culturelle et même dans la région, et on a envie aussi de partager ça avec tous les partenaires culturels. On a donc un ciné-conte aussi pour les enfants qui se déroulera au Centre culturel Jacques Tati. On a aussi à Jacques Tati une séance avec la Maison de l'Architecture autour de la question des habitants-habitantes qui doivent partir de leur maison pour cause de destruction et de restructuration d'un quartier. Et en fait, on est en plein dedans avec Jacques Tati. On a aussi un partenariat avec le Safran. Alors, sujet d'autant plus brûlant aujourd'hui qui était prévu autour de la question du conflit israélo-palestinien. Donc, on va montrer deux films, dont un film jeune public à la Maison de la Culture. Et on a la chance d'avoir Nadav Lapid aussi qui va accompagner le Genou d'Aide. Et un film Little Palestine qui sera projeté au Safran. J'en oublie, j'imagine. On a évidemment un partenariat très étroit avec la Maison de la Culture d'Amiens, avec deux concerts, un concert de Sol Ré qui s'inspire du cinéma et surtout des grandes actrices qui l'ont marqué dans le cinéma. Et on aura la chance qu'elle présente The Hours en copie 35 mm, donc séance exceptionnelle au Ciné Saint-Leu, la veille de son concert. Et on a aussi, bien sûr, le bien-aimé amiénois Gidru, avec Sandra Nkake pour Fantôme, et qui, lui, en fait, nous a envoyé une liste géniale de films de genre pour une carte blanche, et on va montrer le film de Robert Wise, La Maison du Diable. je prononce encore à l'allemande, Alex. Robert Wise, j'arrête. On a aussi des avant-premières. On a une avant-première de Orlando, ma biographie politique, de Paul B. Preciado. Et donc ça, c'est en partenariat avec l'association amiénoise trans et non-binaire divers genres. Et on a l'actrice Naël Daria qui sera là, ainsi que le journaliste et auteur Tal Madesta. Donc on est assez fiers de cette séance. Voilà, et on a donc l'avant-première de Conan de Bertrand Mondico, qui était à la quinzaine, en présence de deux actrices, Sandra Parfait et Nathalie Richard. Donc ça, on est aussi très fiers. En plus, Nathalie Richard a joué dans les films du réalisateur amiénois Dominique Choisy. Donc voilà, il y a aussi des connexions territoriales. Et on a aussi la réalisatrice belgo-camerounaise Rosine Bakam, qui avait son film Mambar Pierrette à la quinzaine aussi cette année, qui nous fait l'honneur de venir pour trois rendez-vous. Donc pour cette avant-première-là, pour aussi un film, un documentaire qu'elle a fait chez Jolie Coiffure dans le cadre d'une carte blanche à un collectif qui s'appelle Black Archive, et pour la fameuse table ronde avec David Chou dont on parlait tout à l'heure, Alexandre.
Il y a Le Bonheur est pour demain aussi de Brigitte Si qui sera là pour présenter donc en avant-première son dernier film. Il y aura Damien Bonnard qui sera là aussi ce soir-là. On a aussi deux rencontres, une rencontre avec Diane Baratier, donc, qui est documentariste mais qui a aussi été directrice de la photo de Romer, et une rencontre avec Eusanne Balsi, qui est une réalisatrice qui a été récemment oscarisée, un Oscar d'honneur, et qui était venue au FIFAM en 1982. Donc là, c'est son grand retour, donc ça va être assez intéressant pour échanger avec le public. Ensuite, on a tout un tas de séances partenaires, on travaille avec la FEMIS, avec la Fac d'Art, enfin, on a beaucoup de choses, il y a plus de 120 films, je crois, qui seront montrés. Donc,
Beaucoup de films de patrimoine aussi, beaucoup d'anniversaires qu'on fête avec des films et sociétés de distribution qui remettent en valeur ces films de l'histoire du cinéma. Et tout à l'heure, tu parlais de producteurs, mais cette question-là, elle est très importante parce qu'on a déployé les journées professionnelles sur une semaine entière. Et donc, chaque jour, même le matin et l'après-midi, il va y avoir des rencontres de tout type, justement avec des producteurs, productrices et des diffuseurs, avec la question du scénario aussi, notamment Brigitte qui reviendra avec cette table ronde avec Dominique Choisy. Enfin voilà, beaucoup de professionnels qui vont aussi traverser les couloirs et venir discuter avec le public.
Grisha. Grisha.
Grande sœur, tu t'es encore endormie sur le traîneau.
Moi, j'ai vu un ours. Je l'ai vu il y a quelques jours et j'ai rêvé de lui aussi.
Attention, Grisha.
Les enfants, occupez-vous bien de votre maman. Je vais aller lui chercher des médicaments.
Va voir l'ours rouge. Tu devras suivre l'étoile polaire. Et tu trouveras la forêt ancestrale.
Sir Odato, tiens le coup, s'il te plaît.
Ma tête.
Colia.
Bah, maman, elle a dit qu'on devait prendre soin l'un de l'autre.
Vous êtes l'un des nôtres. Pourquoi vous faites ça?
Essaie de ne pas m'en vouloir.
Maître de la forêt, vous êtes là? Je suis venu pour vous. Je suis Grisha de la tribu des Yates. Je peux sentir votre présence.
Alors Marie-France Aubert et Alexandre Levaret, un festival, c'est aussi une compétition. Et donc il y a des compétitions de longs et de courts métrages. Par contre, je ne vois pas de documentaire. Il y a des documentaires cette année ou pas?
En fait, depuis l'année dernière, on a mélangé documentaire et fiction. Et en fait, pour ne plus mettre de barrières et pour les mettre au même niveau, et surtout laisser la place aussi à des films très hybrides qui justement jouent de cette frontière très poreuse entre les deux.
Donc nous avons des films qui viennent du Rwanda, d'Argentine, du Brésil, de France. Donc tout ça mélangé, documentaire, fiction. Donc il y a trois sections, c'est long métrage, court métrage et moyen métrage.
Oui, on a ouvert une nouvelle section cette année. Enfin, en tout cas, on a fait revenir une section qui existait déjà, moyen-métrage, parce que pour nous, c'est aussi notre rôle en tant que festival de donner une fenêtre à ces films, à ces formats qui sont trop peu diffusés. Et voilà, à aider un peu à leur permettre une plus grande visibilité. Peut-être, Alex, je te laisse parler un peu plus du reste aussi, si tu veux.
Sur la compétition, oui, je pense que tu as raison, Marie-France, sur le côté hybride, parce que c'est vrai que si on avait dû séparer documentaire et fiction, je pense qu'il y a des films qu'on n'aurait pas trouvé de place pour eux. Il y a des films qui commencent comme de la fiction, qui se transforment en documentaire. Il y a des films dont on croit que c'est une fiction et qui finalement s'avère être quelque chose de très réel, avec des personnages qui ont vraiment vécu l'histoire qu'ils rejouent à peu près. Moi, je vous laisserai découvrir ça. Je pense que c'est une compétition très intéressante, très variée aussi, très centrée en général surtout sur les courts-métrages au niveau de la jeunesse, du passage à l'âge adulte et des transformations de la jeunesse. Moi, je suis très content de cette compétition, je le cache pas, elle est vraiment intéressante. On a des films qui seront des premières françaises aussi, des films qui n'ont pas de distributeur, parce que de la même façon, un festival, c'est intéressant d'essayer de donner une place à des films qui n'en auraient pas en salle, en tout cas avant une sortie. Peut-être qu'il y a des distributeurs qui repéreront les films à cette occasion. Oui, puis le moyen-métrage, c'est assez chouette aussi, parce que c'est un format même difficile même à programmer. C'est des choses qui peuvent être très variées. Il y a des films qui sont parfois pensés pour la télévision. Il y a des films qui sont très expérimentaux aussi, puisqu'ils ont des durées qui leur permettent de ne pas rentrer forcément dans un circuit. Donc, c'est des films qui ont été pensés parfois aussi pour des expositions. Je pense que ça va être aussi une programmation assez intéressante et je suis très content qu'elle revienne au FIFAM, le moyen-métrage en tout cas.
Marie-France Aubert et Alexandre Levaret, préparer un festival, c'est un gros travail, c'est un an de travail. Hein. Les gens pensent que les gens travaillent que sur 10 jours, mais non, en fait, c'est un an de travail. Et donc, on se dit, il y a une tête pensante, la directrice artistique, et il y a les programmateurs, mais est-ce que ça marche vraiment comme ça? Comment ça se passe, la répartition du travail entre une directrice artistique et les différents programmateurs qui viennent aussi bien du cinéma Orson Welles que du ciné Saint-Leu que de l'équipe du festival? Comment se répartit ce travail?
Donc effectivement, comme tu le dis, c'est un an de travail, mais même plus, parce que parfois on pense déjà au festival ou au festival de 2 ans après quand on travaille sur une édition. Mais un festival, c'est collectif et je pense qu'on se complète tous sur nos missions, mais aussi sur les échanges d'idées, les émulations que créent nos discussions à nos postes très divers. Alors voilà, tu parlais de Orson Welles, du Ciné Saint-Leu. Effectivement, on a Lucas Simoni et Angélique Haine qui font partie du comité de sélection, comme Alexandre Levaret et aussi Louisa Pastrane. Et en fait, ce comité de sélection vraiment se concentre sur la compétition. Donc ça crée forcément des regards différents, des discussions passionnantes. Et c'est, voilà, c'est assez beau de tous s'écouter et de prendre en part, de prendre comment dire, en considération les choix divers pour pouvoir proposer aussi une compétition diverse et variée. Et après, en termes de travail de programmation, moi, je vais parler de mon ressenti. Je laisserai Alexandre aussi rebondir et témoigner. Mais en fait, voilà, avec Alexandre, je trouve qu'on est dans un rapport, en tout cas, moi, je le vis comme ça, de duo, où on a chacun, chacune des grandes idées, de thématiques, des envies particulières. Et ensuite, en fait, on a tous les deux des cinéphilies différentes. Et en même temps, on est tous les deux aussi passionnés, exaltés. Et donc, c'est toujours très intéressant de discuter ensemble des films qu'on a envie de montrer, des films qu'on découvre. Enfin, voilà. Alexandre, il regarde encore plus de films que moi, parce qu'il fait beaucoup aussi de présélection. Et voilà. Enfin, donc, on s'apporte aussi beaucoup mutuellement en tant que cinéphilie. Et je pense qu'on a tous les deux besoin de parler aussi des films qu'on va choisir et d'avoir notre regard différent. Et voilà, enfin après, on a aussi des programmateurs extérieurs parce que c'est aussi important de ne pas rester dans l'entre-soi. Et par exemple, Anna Dodier fait une thèse sur la question des disparus d'Amérique latine. Et à l'occasion du triste anniversaire du putsch de Pinochet, c'était important aussi pour nous de donner à côté universitaire aussi une programmation de cinéma et un échange comme ça avec des réalisateurs, des réalisatrices, le public, des chercheurs, chercheuses aussi, des critiques. Geoffrey Spénaud, du coup, a aussi proposé une programmation. Et en même temps, c'est des programmations qu'on construit aussi avec eux et avec elles. Donc ça, c'est assez intéressant. Enfin, Alex, je te laisse, tu t'occupes aussi de la section Hauts-de-France. Je te laisse
parler. Oui, non, mais je suis déjà assez d'accord sur ce que tu as dit, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément les mêmes cinéphilies. Moi, des films de vaches, j'en avais pas vu tant que ça. Et là, j'en ai vu énormément. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. Je pense que... à partir d'une immense liste, bah, on travaille ensemble. Moi, je vais des films que My France avait déjà repérés. Je me dis, ah, bah, ça peut être intéressant. En effet, moi, je découvre beaucoup de choses comme ça. Et je pense que bah, c'est assez mutuel. C'est-à-dire qu'on a des idées, on les balance et puis on y va. On dit, ah, bah, vois ce film-là et ça peut créer quelque chose. Et puis, c'est le principe de faire la programmation. C'est qu'on ne pense pas que le film comme une seule séance. C'est qu'il va se mettre en place dans toute une programmation, répondre à d'autres choses. Après, c'est vrai que nous, on a aussi donc, une sélection Hauts-de-France. Ça, je la travaille avec quelqu'un qui s'appelle Robin Ledan. On a une sélection FEMIS, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on se répartit comme ça. Il y a aussi toute la découverte d'aller chercher des films dans les festivals, d'aller chercher auprès des distributeurs, des vendeurs internationaux, même de cinéastes qu'on a pu rencontrer, qui nous dit « Ah, bah, moi, je connais tel réal qui serait intéressé. » On voit les films. Voilà, donc, c'est beaucoup de visionnage. Et en effet, c'est beaucoup de discussions aussi. Et je pense le plus intéressant de ne pas rester avec ce qu'on a aimé d'un film, c'est de réussir à poser des mots dessus pour vraiment le confronter à quelque chose qui doit rencontrer son public aussi derrière. Donc, c'est le confronter à quelque chose. Enfin, c'est tout un ensemble. C'est assez fascinant, en général.
Puis, on a chacune nos sections chouchou. Toi, c'est vraiment toi qui t'es emparé de la section d'Avichou aussi. Enfin, on apporte aussi chacun notre pierre à l'édifice. Mm-hmm.
Est-ce qu'il vous arrive de programmer des films que vous n'aimez pas dans le but de créer un débat, voire pour confronter les points de vue
En fait, je pense qu'on a une cinéphilie assez vaste aussi, tous les deux, à nous deux réunis. Moi, je sais que en tant que cinéphile, je vais aller vers plein de genres différents, plein de styles différents, et que en fait, ce qui m'intéresse dans la cinéphilie, c'est aussi l'éclectisme et découvrir plein de choses différentes et des regards, qui divergent aussi parfois. Après, je pense qu'on n'a jamais programmé de films qu'on n'aimait pas. Je pense qu'on programme des films qui nous intéressent et qui créent aussi la discussion, qui créent aussi des propositions de cinéma, de réflexion. Mais non, je pense qu'en fait, on s'est jamais trahi, je crois, en tout cas, dans ce qu'on propose, mais on essaye d'être le plus accueillant et accueillante possible aussi pour que le plus grand nombre de personnes puissent se reconnaître aussi, se sentir accueillies dans le festival, quoi. Mais je sais pas ce que t'en penses, toi, Alex. Bah,
moi, il y a cette chose que je trouve intéressante, c'est au niveau de la compétition. Il y a des films qui, de premier abord, m'auront pas marqué autant que quelqu'un d'autre dans le comité, mais c'est aussi intéressant, c'est de se laisser convaincre pourquoi pourquoi moi ça m'a pas parlé à ce moment-là et pourquoi ça a parlé énormément à d'autres et parfois à l'ensemble du comité, et c'est aussi ça qui est intéressant. Donc c'est pas des films que j'aime pas ou je suis fermé, parce que dans ce cas-là on a quand même des veto, je pense, on dit non ce film, non ça c'est pas pour nous, mais justement c'est aussi l'intérêt d'avoir ce genre de compétition, c'est de se laisser convaincre avec des propositions qui sont pas forcément en accord avec ce qu'on aime habituellement. Donc c'est aussi le but, je pense, d'un festival, c'est de confronter à des nouveaux cinémas aussi, c'est ce qu'on essaye de faire, je pense, dans beaucoup de choses dans la compétition en général. Donc c'est pas des films qu'on aime pas, mais c'est des films où de premier abord on n'était pas forcément convaincu, mais on s'est laissé convaincre au fur et à mesure.
Je me suis mal exprimé, par films qu'on aime pas j'entendais des films problématiques, des films problématiques qui justement peut amener à un débat avec le public, etc., etc. Une réflexion sur l'image, une réflexion sur le pouvoir du cinéma, etc., etc. Donc il y a des exemples célèbres, hein, je veux dire Naissance d'une nation par exemple est un film problématique, pourtant artistiquement c'est un grand film, mais idéologiquement c'est pas possible.
Moi si je peux répondre, je pense que si, c'est intéressant parce que dans l'histoire du FIFAM, il y a eu beaucoup de films qui ont été montrés dans le but de les redécouvrir avec un regard différent. C'est-à-dire que quand on montrait les films français qui s'intéressaient, disons les films qui parlaient de l'Algérie par exemple, on essayait de comprendre pourquoi ces films existaient de cette façon-là, avec un regard qui était un peu plus différent, un peu plus politisé aussi dessus. Et c'est quelque chose qui a beaucoup été montré. Il y a eu toute une section qui a été faite à l'époque sur les Amérindiens, les films créés principalement aux États-Unis, avec aussi le regard sur les westerns qui massacraient allègrement tous les Amérindiens sans aucun discernement. Et en gros, je pense que cette question-là, elle est intéressante. Je pense qu'aussi, c'est aussi l'exemple de trouver des films qui peuvent amener ces questions-là, qu'on peut réfléchir autrement, mais qui sont intéressants derrière. Je pense que La Vache et le Prisonnier peut être un exemple. Bah, je te laisse en parler, parce que c'est un exemple dans cette programmation.
Pour La Vache et le Prisonnier, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de blagues misogynes qui affleurent, mais après, je me dis, c'est aussi l'époque, et que c'est intéressant aussi de le noter, d'en parler, mais que ça reste un grand film, et un film qui parle aussi d'une période sombre de l'histoire, et qui permet aussi d'être très accessible dans cette manière d'aborder cette histoire-là. Après, moi, par contre, je sais pas, je trouve que programmer des films problématiques, c'est pas forcément mettre de côté, mais je me dis en fait il y a déjà tellement peu de place pour les films que je sais pas si ça m'intéresse vraiment aussi de donner une place à des films qui me posent problème, et c'est pas pour mettre fin au débat ou quoi, parce que je pense qu'il y a beaucoup de films très intéressants, pas problématiques, qui permettent d'aborder des questions passionnantes et de se poser des questions et de justement de parler de choses peut-être problématiques. Mais voilà, après si une section peut appeler un film comme ça, c'est intéressant je pense que de le contextualiser. Mais voilà, enfin, après, il y a aussi toute la question de qui est le réalisateur. Moi, par exemple, on m'a proposé pour Les Disparus un film de Polanski. Enfin, moi, ça ne m'intéresse pas aujourd'hui de programmer Polanski, alors qu'en plus, on avait des films de réalisateurs, réalisatrices vraiment du continent. Enfin, c'est des exemples comme ça. Et je me pose pas, je me fiche pas dans cette position. Mais voilà, je trouve que je préfère donner des places à des films qui m'intéressent plus.
Une dernière question. Bon, là, je parle en tant que spectateur cinéphile. L'année dernière, il y avait un hommage à Samba Félix Ndiaye. Et cette année, je m'attendais quand même à un hommage à Safi Faye, mais il n'y en a pas. Et je trouve qu'apparemment, il n'y a pas beaucoup d'Afrique cette année.
Alors, Safi Faye, moi, je m'occupe aussi d'un festival de documentaires africains, et justement, on lui a rendu hommage cette année. Sauf que moi, j'ai su très tôt que les trois continents allaient faire une programmation Safi Faye. Donc, à un moment donné, entre festivals, on s'est... Je pense que c'est un peu dommage de faire les mêmes choses. Après, je pense qu'il y aura d'autres moyens de montrer des films de Safi Faye. Enfin, je pense que c'est très important. Et d'ailleurs, quand j'avais répondu à un quiz de William Tessier à mon arrivée, j'avais dit qu'on m'avait demandé qui était la personne qu'il fallait absolument redécouvrir. J'avais parlé de Safi Faye. Mais après, je pense qu'il y a aussi quelque chose de délicat où nous, on n'avait pas forcément envie de sauter sur l'occasion de rendre hommage à Safi Faye parce qu'elle venait de mourir. Surtout que c'est quelque chose qu'on voulait faire déjà bien en avant. Bien avant. Et du coup, c'était un peu... Voilà, ça nous rendait aussi un peu mal à l'aise. Mais en tout cas, elle est dans notre esprit. Et je pense qu'un jour, on fera des choses. Et voilà, après en termes de cinéma africain, on a des grosses sections autour des cinémas d'Afrique qui se préparent pour les années à venir. Et là, cette année, on a mis un peu plus en valeur les cinémas d'Amérique latine, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Donc c'est toujours une manière aussi de creuser l'histoire du FIFAM. Et voilà, en tout cas, dans la section compétition, il y a quand même pas mal de films africains.
Pour moi, je pense qu'il se passe quelque chose dans pas mal de parties du continent africain en cinéma. Il y a plein de cinéastes, nous, qu'on découvre. Là, donc, on a un film qui s'appelle The Bride, qui est un film rwandais qui sera en compétition. C'est un premier film et la réalisatrice sera là. D'ailleurs, on est très contents, je pense, de pouvoir mettre en avant ces films-là parce que je pense qu'ils amènent quelque chose qui est en train de se passer, notamment en Afrique de l'Est. Sur le cinéma, c'est chouette de se dire qu'on n'est pas forcément que dans ce qui a déjà été fait, beaucoup au festival aussi, il y a eu beaucoup, forcément il y a une histoire du cinéma africain au festival, et je pense que la façon dont on veut l'aborder, c'est d'éviter de faire par principe une programmation sur le cinéma africain, mais justement d'essayer de voir ces tendances-là et d'en faire quelque chose. C'est pour ça qu'ils se préparent des choses qui mettent du temps, parce que c'est des films qui sont encore très rares aussi et qui méritent d'avoir une belle place, et je pense que ça viendra rapidement l'année prochaine.
Marie-France Aubert et Alexandre Levaret, merci. Alors je rappelle que cette 43e édition du Festival international du film d'Amiens se déroulera du 10 au 18 novembre et nous espérons tous vous y voir nombreux.
Merci à Thomas Roland, Marie-France Aubert et Alexandre Levaret. C'est déjà la fin de cette émission et on se quitte avec Amigo Branco de Marcia Maria, grande chanteuse de jazz brésilien des années 70-80, pour bien démarrer la semaine et de bonne humeur. À demain.